Alors, on le sent beaucoup, le temps des fêtes, ça approche, même que ça arrive très bientôt, et c'est toujours une bonne période de l'année pour rappeler d'être prudent et d'éviter de conduire avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue. En fait, la conduite avec faculté affaiblie, c'est la principale cause criminelle de décès et de blessures au Canada. Allons-y de quelques chiffres. En 2019, les services de police au Canada ont déclaré plus de 85 000 affaires de conduite avec facultés affaiblies. Et ça, c'est un taux qui était supérieur de 19 % par rapport à l'année d'avant. Donc, on a l'impression des fois qu'il y en a un petit peu moins. C'est peut-être pas toujours le cas quand on regarde les statistiques. Et pour la chronique du Centre de justice de proximité de l'Outaouais de cette semaine, ben on rejoint tout de suite au bout du fil Christelle Sauvé, qui est parajuriste au CJPO, pour en apprendre un peu plus sur ben, les conséquences de la conduite avec les facultés affaiblies. Christelle, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Si on commence tout d'abord, peut-être nous donner quelles sont les infractions qui sont liées justement à la conduite avec les facultés affaiblies.
Oui, en fait, le Code criminel prévoit plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez être arrêté et condamné en lien avec la conduite avec les facultés affaiblies.
Okay.
Donc, premièrement, il y a le fameux 0.08. Donc, une personne commet une infraction si elle conduit avec un taux d'alcool égal ou supérieur à 80 mg par 100 ml de sang. Faut savoir, par contre, que le Code de la sécurité routière prévoit des limites d'alcool plus strictes pour certains conducteurs, comme les conducteurs apprentis de moins de 22 ans, pour qui il est totalement interdit de conduire après avoir bu de l'alcool. Deuxièmement, une personne commet aussi l'infraction si elle conduit en ayant consommé de la drogue ou si elle dépasse la limite permise dans le sang. Donc, pour le cannabis, un conducteur peut être accusé en vertu du code criminel si les résultats sanguins indiquent un taux de 5 nanogrammes de THC par millilitre de sang ou encore si c'est combiné avec un taux d'alcool. On parle de 2,5 nanogrammes de THC par millilitre de sang, combiné au taux d'alcool égal ou supérieur à 50 mg d'alcool par 100 millilitres de sang dans ce cas-ci.
Bon, c'est technique, mais quand même, il faut comprendre qu'il y a des normes, dans le fond, là.
Exactement, exactement. C'est effectivement technique au niveau des chiffres, mais faut savoir qu'il faut faire attention à ces taux-là. Donc, faut se rappeler, par contre, que pour la plupart des drogues, comme la cocaïne ou la méthamphétamine, la présence de n'importe quel taux détectable dans le sang suffit pour qu'il y ait une infraction. Troisièmement, dans certains cas, la quantité d'alcool ou de drogue consommée n'est pas décisive puisque c'est la capacité de conduire qui est en jeu. En effet, une personne commet une infraction si sa capacité de conduire est affaiblie, que ce soit par l'alcool, la drogue, les médicaments ou une combinaison de ces facteurs-là.
Okay.
Donc, cette infraction pourrait s'appliquer, par exemple, dans les cas où une personne aurait consommé un médicament qui aurait des effets secondaires importants ou celui où la combinaison de fatigue et d'alcool ferait en sorte que la capacité de conduire de la personne serait affectée.
Et ça, même si on n'a pas atteint les taux prescrits, là.
Oui, exactement. Donc, c'est pas le même type d'infraction, mais il s'agit quand même d'une infraction, peu importe le taux dans le sang.
OK. Est-ce qu'une personne peut se faire arrêter même si le moteur de son auto n'est pas en marche?
Oui, ça pourrait arriver parce que la loi n'interdit pas seulement le fait de conduire un véhicule lorsque sa capacité est affaiblie, mais également d'en avoir la garde ou le contrôle. Dans ce cas-là, plusieurs facteurs vont être pris en considération par le tribunal pour déterminer si la personne avait justement la garde et le contrôle du véhicule, dont le fait que la personne avait les clés sur elle, le fait qu'elle se soit servie de la radio, des phares du véhicule, du chauffage ou l'endroit où la personne était assise dans le véhicule.
OK.
À ce moment-là, le policier va évaluer s'il était possible pour la personne de conduire son véhicule et si elle en avait l'intention. Donc, par exemple, si une personne est assise dans le siège du conducteur, déjà là, elle commence avec une prise contre elle parce que la loi prévoit que ce simple fait est en soi une preuve qu'elle avait la garde et le contrôle du véhicule. À ce moment-là, il va revenir au conducteur de démontrer qu'il n'avait pas l'intention de mettre le véhicule en marche puis que son comportement n'a pas entraîné de risque ou de danger pour autrui.
Puis comment une personne en vient à se faire arrêter par les policiers pour une infraction qui serait liée à la conduite avec les facultés affaiblies?
Généralement, pour repérer les conducteurs aux facultés affaiblies, les policiers peuvent simplement observer la façon de conduire des gens. Généralement, on peut remarquer lorsqu'une personne ne conduit pas adéquatement. Sinon, dans certains cas, ils peuvent intercepter des véhicules au hasard ou effectuer des barrages routiers qu'on voit plus fréquemment dans le temps des fêtes, par exemple. Une fois qu'un véhicule est immobilisé, les policiers, s'ils soupçonnent que le conducteur a consommé de l'alcool ou conduit avec les facultés affaiblies, peuvent faire descendre le conducteur du véhicule pour observer son comportement, lui faire passer un test de coordination physique ou lui faire subir un test de dépistage avec un appareil de détection.
Puis est-ce que le conducteur est obligé de se soumettre à ces tests-là?
Oui, un refus de tempérer sans excuse raisonnable a des conséquences très sérieuses. En fait, il faut savoir que le refus lui-même est considéré comme une infraction criminelle. De plus, de manière générale, le conducteur qui va refuser de collaborer va quand même être accusé d'avoir conduit avec les facultés affaiblies.
Okay.
Donc, en refusant de se soumettre au test, le conducteur va faire face à deux accusations criminelles au lieu d'une, en plus de sanctions encore plus sévères.
Puis, est-ce qu'il y a aussi un test qui est à effectuer au poste de police?
Oui. Donc, après l'arrestation, une fois au poste, le policier peut recourir aux procédures suivantes. Donc, il peut soit ordonner au conducteur de fournir un échantillon de sang. Dans ce cas-là, le conducteur va être accusé de l'infraction pertinente, dépendamment de la concentration d'alcool ou de drogue dans son sang.
Okay.
Ou il peut ordonner de se soumettre à une évaluation plus poussée par un expert en reconnaissance de drogue. Il peut également ordonner les deux. Puis, dans les deux cas, des accusations vont être portées contre le conducteur si, après l'évaluation, ceci indique que les facultés du conducteur étaient bel et bien affaiblies par l'alcool ou la drogue.
Mais là, le conducteur a droit à un avocat?
Absolument, absolument. Après l'arrestation, le policier doit informer le conducteur de ses droits, dont celui de parler à un avocat. Le conducteur pourra se prévaloir de ce droit-là avant de se soumettre à un alcotest au poste, de fournir un échantillon de sang ou de prendre part à une évaluation par un expert en reconnaissance de drogue. Par contre, il faut savoir qu'avant de pouvoir parler à un avocat, l'automobiliste doit quand même subir les tests à l'aide de l'appareil de détection approuvé, d'un appareil de test de salive, ainsi que le test de sobriété normalisé.
Puis là, pour ce qui est des sanctions, là, à quelles sanctions est-ce qu'on peut s'attendre lorsqu'on se fait arrêter pour une infraction pour conduite avec facultés affaiblies?
Plusieurs sanctions peuvent être imposées. Elles varient selon l'accusation, la concentration d'alcool ou de drogue, qu'il s'agisse de la première infraction ou d'une récidive, et s'il y a eu des lésions corporelles ou la mort même d'une autre personne.
Okay.
Donc, dès qu'une personne se fait arrêter pour conduite avec faculté affaiblie, généralement, avant même d'être déclarée coupable devant un juge, son permis de conduire va être suspendu. Même chose si la personne refuse de se soumettre au test des policiers.
Mm-hmm.
En cas d'une condamnation pour un acte criminel, à ce moment-là, les peines minimales prévues au code sont les suivantes, rapidement. Donc, pour la première infraction, on parle d'une amende minimale de 1 000 et d'un emprisonnement possible.
Okay.
S'il s'agit d'une récidive, donc d'une seconde infraction, on parle d'un emprisonnement minimal de 30 jours. Et pour chaque infraction subséquente, à ce moment-là, on parle d'un emprisonnement minimal de 120 jours.
Okay.
Aussi, le juge impose généralement une interdiction de conduire si le conducteur est reconnu coupable. La durée de l'interdiction de conduire varie selon la situation, puis peut aller de 1 an à plusieurs années. Faut savoir également que les peines sont plus sévères si le conducteur blesse une personne.
Mm-hmm.
Il peut aller soit jusqu'à 14 ans d'emprisonnement ou si, suite à sa conduite, elle cause la mort d'une personne. Donc, on peut parler à ce moment-là d'emprisonnement à vie. Puis, il faut savoir aussi que la condamnation pour l'une de ces infractions criminelles entraîne l'ouverture d'un casier judiciaire.
Et Christelle, comment est-ce qu'on fait si on veut en savoir un peu plus sur le sujet?
Oui, pour en savoir plus, on peut consulter Éducaloi, comme toujours, ou le site web de la SAAQ, ainsi que le site web du gouvernement du Canada au sujet de la conduite avec faculté affaiblie.
Mm-hmm.
Donc, je voudrais rappeler qu'il ne faut pas conduire après avoir consommé de l'alcool ou de la drogue, qu'on peut plutôt appeler un ami, un taxi ou même, dans ces temps-ci, l'organisme Nez Rouge, donc
oui.
Vendredi et samedi. Si c'est nécessaire, on peut les rejoindre au 819-449-6635.
Et en terminant, Christelle, peut-être un dernier mot pour nos auditeurs et auditrices?
Oui, absolument. En fait, j'encourage tout le monde à visiter le Centre de justice de proximité ou à nous téléphoner, donc au numéro sans frais, le 1-844-606-4600 ou au 819-600-4600. Vous pouvez également toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et TikTok. Puis je rappelle que le service est gratuit pour tous, peu importe vos revenus.
Bon, on va aller jeter un coup d'œil sur ces réseaux sociaux-là. Christelle, un grand merci pour ces informations aujourd'hui. Puis je te souhaite de très joyeuses fêtes.
Merci à toi aussi, Sébastien.